Il y a 2 ans, l'écrivain et journaliste Jean-Paul Marie avait tenu depuis le début un journal de bord sur l'Aquarius que l'on pouvait lire dans Libération et sur le site de Mediapart. Voilà ce qu'il écrivait. Le 25 février prochain, un navire de combat va appareiller du port de Lampedusa en Sicile. 77 mètres de long, 12 hommes d'équipage de toute nationalité, un capitaine allemand, assez de fuel, de médicaments, d'eau et de nourriture pour tenir 3 semaines en mer. L'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, part en campagne. Face à lui, la grande vague des migrants, 1 million l'année dernière, autant voire plus cette année. Ils partent en chalutier, en zodiac, en barcasse et ils se noient. 30 000 morts en 15 ans. Alors, l'Aquarius part en guerre, contre l'indifférence, l'immobilisme, le cynisme, l'inhumanité, contre les vagues de la Méditerranée et ses rouleaux du fond qui ballottent des corps, hommes, femmes, enfants, regardant le sillage des bateaux en surface, ce qui devait les amener vers leurs rêves. Que faire? Oui, c'est une guerre pour sauver des vies, pas pour tuer des hommes. La seule guerre qui vaille d'être menée à outrance. Oui, on peut dire sa honte et sa colère, agir, se battre, participer, remuer le ciel et surtout la terre. C'était il y a 2 ans.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang que voit mon invité d'aujourd'hui en Méditerranée. Elle qui rappelle en ouverture du clip de son dernier morceau, Nterini, que sur 7 milliards d'habitants, la Terre compte 1 milliard de migrants et qui il y a 7 ans dans son premier album nous alertait déjà sur la tragédie des réfugiés. Son nouvel album Fenfo, coproduit par Mathieu Chédid, vient de sortir. Fenfo ou Quelque chose à dire en Bambara, un disque où l'héritage de la musique malienne se conjugue à la modernité électrisante des guitares. Bonjour Fatoumata Diawara.
Bonjour.
Merci beaucoup
d'être là. Vous de m'avoir invité.
Avant toute chose, qu'est-ce que vous voyez, vous, à travers ce bateau, l'Aquarius?
J'ai eu beaucoup d'émotions là en écoutant ce texte. Il est très très beau. Il résume tout. C'est vraiment très touchant. Et effectivement, Terini parle de cette même aventure, mais d'une manière, voilà, à ma façon. J'essaie d'aborder effectivement ce thème, justement ce bateau qui sauve les vies humaines, des enfants sur la mer. Disons que si parfois on pouvait juste oublier nos couleurs, si on pouvait juste imaginer que ce sont des êtres humains, que c'est la vie des êtres humains que nous sommes en train de sauver, on laisserait ce bateau continuer à aller se battre.
Il y a 7 ans, Fatoumata Diawara, vous avez écrit une chanson qui s'appelait Clandestin.
Exactement.
Où vous évoquiez, hein, avant que ce sujet ne fasse l'actualité, comme elle le fait aujourd'hui, cette tragédie de nombreux exilés qui périssent en mer, 7 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé?
Ben, je pense que pas grand-chose. Ça continue. Et comme nous ne sommes pas assez nombreuses, il n'y a pas beaucoup de chanteuses pour pouvoir être la voix de la Méditerranée, pouvoir se faire entendre à travers le monde entier. Moi, je trouve que c'est un combat juste de ma part, même si je l'avais chanté sur le premier album, de continuer à chanter jusqu'à ce que même le prochain, si ça continue, je vais continuer à chanter. J'ai toutes 1000 manières d'aborder ce chemin. Parce qu'il y a des enfants sur la mer. Moi, je suis une femme. Je ne peux pas imaginer qu'on tend la main à des enfants sur la Méditerranée. C'est quand même des mômes, c'est des bébés. Ce sont des bébés.
Pour vous, la musique peut être une arme politique?
Bien sûr.
Parce que vous savez ce qu'on dit dans ce cas-là, on dit qu'ils sont complètement hors sol, ils ne se rendent pas compte, ils nous parlent de musique, mais nous on parle de réalité, de pragmatisme.
Non, la musique, elle a vraiment cette force-là. De réunir du monde et pouvoir rassembler et de pouvoir se faire entendre.
Et ça dit quelque chose de votre héritage malien, j'ai l'impression, et de la place de la musique dans la culture de votre pays. Qu'est-ce qu'il y a de si unique dans la musique malienne, dans la culture malienne de la musique, Fatoumata Diawara?
Pour commencer, je vais dire la musique malienne a cette particularité grâce à ses instruments ancestraux. C'est qu'au Mali, c'est l'un des pays en Afrique où nous avons encore nos instruments, comme la kora, des instruments très très anciens, comme la kora, le balafon, le mbolon, et qui arrivent à se jumeler, à se fusionner avec la musique moderne, qu'on a pu conserver avec le temps, qu'on n'a pas, on les adapte de génération en génération. Et on a la chance d'avoir du griotage, car les griots, c'est de père en fils, de grand-père en père et de père en fils. Ce qui fait que nos instruments sont bien conservés et que la jeunesse arrive à les adapter à la musique moderne. Et ce qui fait qu'il y a une sonorité, c'est comme la musique indienne avec le sitar. C'est que ce sont des rares pays où tu peux vraiment reconnaître le pays à travers son son, sa sonorité. Et nous, on a une identité de son. Tu entends la musique malienne, tu la reconnais tout de suite.
Et le Mali, vous en êtes désormais l'une des voix les plus emblématiques, évidemment. Fatoumata Diawara, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, C'est peut-être d'abord une chanson et un visage dans le film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu. Puis c'était aussi ça avec Mathieu Chézide. Je pense à Bissa sur l'album Fatou, il y a 7 ans. Bissa, c'est sur le premier album. Fenfo, le deuxième, vient de sortir, Fatoumata Diawara. Fenfo, ça veut dire quelque chose à dire. En Bambara. Pourquoi c'était essentiel pour vous de continuer à écrire, à chanter, à dire dans cette langue, le Bambara?
Le Bambara est une très très belle langue. Et c'est dans la langue dans laquelle je me sens plus vraie. Parce que comme je suis une artiste de scène et que je travaille, je voyage beaucoup à travers le monde, je me suis rendu compte que quand j'arrivais dans des pays comme en Asie et tout, et que je me mettais à chanter dans une langue où les gens ne comprenaient pas, ils étaient fascinés. Il y avait un côté où extraterrestre, c'est comme en Amérique latine, quand je vais là-bas et que je chante, les gens pleurent. Parce qu'il y a cette distance, comme si j'amenais l'Afrique envers eux.
Et il y a beaucoup quelque chose de la fierté d'être africaine.
Ouais. Oui, moi j'aime beaucoup chanter en Bambara. Il y a un côté où je représente l'Afrique, je suis la voix de cette Afrique dans un continent où les femmes n'ont pas beaucoup de voix. Enfin, la plupart des femmes, majoritairement, n'ont pas la voix, comment dire, l'émancipation. On a beaucoup de travail encore à faire. Donc j'essaye de, voilà, d'être la voix de toutes ces femmes-là, et aussi des enfants qui souhaitent un monde de paix, de tranquillité, de partage, de générosité. Donc il y a vraiment un grand combat derrière cette langue-là.
Et quel avenir est-ce que vous lui voyez à l'Afrique? Parce que dans ce disque, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'envie de votre part de transmettre de l'espoir sans cesse.
Bien sûr, parce que quand on écoute les chansons, certes, il y a des mélodies qui sont les premières énergies qu'on va recevoir, mais après, quand on lit un peu les textes, on se rend compte qu'il y a quand même toute une histoire. C'est un livre, parce que chaque chanson a sa petite histoire. Donc effectivement, derrière ces chansons-là, il y a toujours une introduction de l'Afrique. Il y a comme si j'essayais de me mettre au milieu. Je voudrais être les balances, parce que j'ai beaucoup de frères occidentaux comme Mathieu, musicalement,
Mathieu Chédid.
J'apprends beaucoup d'autres sonorités et en même temps j'ai un pied en Afrique avec les Toumani ou Moussangaré et Abu Koité, voilà, tous les grands artistes maliens. Donc je suis au milieu, j'essaie en fait de réunir mes expériences avec toutes les collaborations que j'ai eu la chance de faire et en même temps garder la tradition malienne, parce que les gens sont à la demande de cette tradition-là quand même. Ça se fusionne bien musicalement avec d'autres styles.
Vous parliez d'être une femme, Fatoumata Diawara, être une femme africaine et musicienne. Quel combat est-ce que ça a été? Je vous pose aussi la question, parce que quand vous avez commencé, une jeune fille malienne qui se saisit d'une guitare acoustique, c'est pas très orthodoxe.
C'est pas facile, j'avoue, mais j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur comme Rokia Traoré qui avait commencé déjà. Elle était l'une des seules à avoir la guitare au Mali. Mais après, comme j'ai eu la chance de vivre à Paris, voilà, dans les bars, dans les cafés, fait tout ça avec Indy Zara, ma grande sœur aussi, et on se débattait dans les cafés, on jouait, mais on s'est rendu compte qu'en fait, avec sa guitare, on avait plus de liberté d'avancer dans la composition. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quand j'avais ma guitare, je sentais la liberté de pouvoir écrire 7 chansons en une semaine ou une vingtaine en un mois. Je me suis dit, mais en fait, c'est magique. Alors qu'avant de pouvoir jouer la guitare, je devais attendre qu'un musicien soit dans dans un studio pour pouvoir composer une chanson. Je me suis dit, mais cela va prendre 20 ans pour composer un album.
C'est
parce qu'ils viennent
liberté.
Pas. Ah oui. C'est vraiment une très très, c'est, je sais pas comment dire, c'est le meilleur compagnon d'un artiste. C'est vraiment notre arme de guerre.
Vous savez qui est notre meilleur compagnon, notre arme de guerre dans cette émission? C'est la culture, Fatoumata.
Bien sûr,
la culture, vrai. Évidemment, c'est une activité rebelle, vrai. Mais qui fait beaucoup de bruit. Alors souvent, pour pas grand-chose, on l'appelle rebelle without a cause. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 12 juin? Barou d'Horner, la musicienne Yvette Horner, reine de l'accordéon, s'est éteinte hier. Elle avait 95 ans, impayable diva à crinière orange et gouaille de légende. Elle était une icône populaire, papesse des bals musettes, mascotte des Tours de France. Réclamée par tous, elle avait collaboré avec Quincy Jones et Boy George, était la muse de Gautier et vendu plus de 30 millions d'albums. Salut Yvette.
On pardonne beaucoup moins bien aux États-Unis la vieillesse chez les femmes qu'en France, par exemple.
Oui.
Peut-être c'est parce que vous aimez le vin.
Tous fondus de Fonda, le 10e prix Lumière décerné par l'Institut Lyonnais sera attribué à l'actrice iconique militante féministe Jane Fonda. Légende de Hollywood depuis plus de 50 ans, distinguée deux fois par l'Oscar de la meilleure actrice, The Fabulous Fonda recevra le prix qui récompense l'ensemble de sa carrière lors du Festival Lumière à Lyon en octobre prochain. Bertrand Cantat a décidé d'interrompre sa tournée et d'annuler ses deux derniers concerts prévus à Pau et Bordeaux. Depuis dimanche, une petite phrase prononcée sur scène à Bruxelles laisse planer le doute quant à l'arrêt définitif de la scène pour le chanteur condamné en 2004 pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant et réentendu par la justice sur la mort de son ex-femme Christina Radi.
Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer.
Tous en piste à Limoges, c'est qui débute le joli festival L'Union des écoles. Une centaine d'élèves venus d'écoles de théâtre et de cirque du monde entier se donnent rendez-vous dans le Limousin pour jouer Molière, Shakespeare et des dramaturges contemporains tels que le Burkinabé Aristide, Tarnada ou le Singapourien Kuo Pao Kun. Désormais ouvert au cirque, l'événement donnera aussi La Condition Collective, pièce où le jonglage tient un rôle central. Bref, c'est de la balle. Et Fatoumata Diawara, invité de Boomerang ce matin pour Fenfo, son nouvel album, un album coproduit, on l'entendait, par Mathieu Chédid, avec qui vous avez déjà travaillé de nombreuses fois, et notamment sur l'album L'âme au Mali, qu'il était venu présenter à ce micro. Comment vous l'avez rencontré, Mathieu?
Ah, Mathieu, on s'est rencontré sur scène. Et c'est la meilleure façon. Entre les artistes, c'est comme ça que ça se passe. C'est avec la musique que vous communiquez et vous vous rendez compte si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Et en général, les artistes ne se choisissent pas parce qu'ils sont bons ou pas. Parce que tout le monde sait jouer quasiment. Quand tu deviens artiste ou chanteur ou musicien, on se bat tous pour être les meilleurs. Mais les connexions se font à travers l'énergie, le niveau de la générosité de chacun. En fait, il y a une connexion naturelle qui se fait. Et avec Mathieu, on s'est rencontrés sur scène à Marseille.
Il dit souvent à quel point vous lui avez apporté. Mais lui, qu'est-ce qu'il vous a apporté?
Il m'a beaucoup apporté aussi. Il continue d'ailleurs, parce qu'on continue à travailler ensemble. On a d'autres projets qui vont vous surprendre, qui arrivent aussi. Et non, il y a... En fait, tout ne peut pas s'expliquer dans la musique. Il y a aussi le niveau spirituel. En fait, tu es avec quelqu'un et tu te sens bien. Et tu ne sais pas pourquoi. Peut-être vous êtes frères sur une planète que les gens ne connaissent pas. On ne sait pas quelle planète c'est, en tout cas sur la planète des musiques. Tu as des frères qui n'ont pas forcément ta couleur.
Ça revient tout le temps chez vous, les frères, les sœurs,
oui,
les parents.
Effectivement, parce que sur notre planète, il n'y a pas de la planète de la musique, il n'y a pas de couleur ni de frontières. Et sur cette planète-là, je suis vraiment la sœur de Mathieu, parce qu'on a beaucoup de choses en commun.
Vous savez que Fatoumata Diawara, vous savez que Mathieu, Chédid, il est un peu chez lui hein, sur cette chaîne et dans cette émission aussi. On sait ce qu'on a fait. On l'a appelé. On est comme ça.
Non.
Allô? Allô Mathieu? Mathieu?
Allô?
Allô, allô?
Allô? Quand j'ai entendu Fatoumata chanter pour la première fois, ça a été un choc émotionnel parce que j'ai entendu vraiment surtout un cri du cœur comme ça et puis une puissance, une féminité, une grâce assez rare, quoi. C'est vrai qu'elle m'a fait immédiatement penser à Nina Simone. Par son authenticité, je pense, et puis cette force, comme ça, c'est ce côté masculin-féminin aussi. Et ouais, je pense que c'est une des plus grandes interprètes que je connais. Le fait de travailler avec Fatoumata, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que c'est quelqu'un qui s'adapte à toute situation, à d'autres cultures, à d'autres musiques. Donc, c'est une grande travailleuse aussi, une guerrière, je dirais même. Et c'est quelqu'un qui a une force intérieure incroyable. Elle est immortelle pour moi. Le plus important pour Fatou, c'est de garder ses racines et de les offrir au monde. Puisque c'est les racines du monde aussi, la musique malienne, à travers le blues, à travers le rythme et plein de choses, selon moi. Et puis, la musique malienne est sûrement la musique la plus diversifiée, en fait, dans la musique africaine. On le voit à travers tous ces musiciens et ces instruments de musique qui marquent quand même une identité très forte, comme la kora, évidemment, le ngoni, le balafon. C'est tout un monde. Et je dirais que c'est selon moi, en tout cas dans ma sensibilité, la musique africaine qui me touche le plus.
Quand il dit, Mathieu Chédid, Fatoumata Diawara, que l'important pour vous, c'est de garder vos racines et de les offrir au monde.
Oui, ça c'est vrai. C'est le, ma vérité en vrai, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne me jugeait pas à travers le monde quand j'allais chanter avec ma guitare en étant africaine. Au contraire, j'apportais quelque chose de très nouveau et à ce public. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je continue à faire. Parce qu'il y a une place pour cela. Les gens attendent que tu les introduises à l'Afrique, qu'ils ne connaissent pas forcément. Quand tu vas en Inde ou au Japon ou en Chine, tout le monde ne peut pas aller en Afrique. Donc c'est à moi, c'est mon travail, c'est à moi de les apporter l'Afrique
à autant,
travers ma musique.
Et pour que vous vouliez à tout prix que cet album soit moderne. Qu'est-ce que ça voulait dire, moderne?
Mais moderne dans le sens où la modernité, elle est ma vie en même temps, parce que je vis en France depuis presque 19 ans. Et j'ai eu la chance d'écouter d'autres styles de musique.
Donc ce serait un son métissé, en
exactement,
fait.
Exactement, c'est un son métissé. Que je puisse toucher le monde extérieur tout en m'adaptant à eux, en allant vers eux.
Et ça passe par quoi? Par quels arrangements? Par quels rythmes? Par quels instruments?
Mais par exemple, comme en travaillant avec Mathieu sur ce projet, il m'a aidé à mettre voilà, un pied de l'autre côté. Moi, je reste moi-même. Je reste authentique, rester malienne. Ma façon de jouer la guitare, parce que j'ai appris à jouer la guitare pas comme tout le monde. J'ai appris à l'oreille. Donc, j'ai une façon très blues, très basique, blues, de jouer la guitare. Mais Mathieu, il amène d'autres sonorités à la guitare qui fait qu'on est compatible. Il m'amène l'autre monde. Il y a un métissage, vraiment, un travail de métissage qui s'est fait sur cet album. Et moi, il sait bien que ça ne me dérange pas, ça, moi. J'aime beaucoup le mélange, j'aime le métissage. Je suis pour cela.
J'ai l'impression que la modernité, elle passe aussi par la voix, par la présence de la voix. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous vous mettez à chanter?
Ah, après, je laisse l'âme parler parce que, comme Mathieu, on a ce truc-là d'instinct. En fait, lui, il fonctionne beaucoup avec l'instinct. Tu peux travailler, répéter avec Mathieu, mais après, quand il est sur scène, il a des messages qui lui viennent. Enfin, on est comme des instruments, on est des messagers où les mélodies nous traversent comme ça et on les laisse passer, on les transmet au public.
Et cette émotion, cette vibration quasi spirituelle, vous l'avez toujours sentie en vous?
Oui, oui. Moi, c'est avec ça que c'est pourquoi j'ai dit que je suis une artiste de scène. Ça marche beaucoup sur scène. J'ai plus de live dans l'année que d'albums en 10 ans. Mon dernier album, ça fait 7 ans, mais j'ai pas arrêté de tourner, même jusque-là.
Mais la première fois où ça s'est produit, Fatoumata Diawara, vous avez quel âge, vous vous en souvenez?
Ah oui, c'était sur... parce que j'ai fait du théâtre, moi. J'ai fait le Royal de Luxe pendant 6 ans de ma vie, et c'était au théâtre. En fait, au Royal de Luxe, quand je venais de quitter ma famille, je me suis enfuie, moi. C'était l'âge du mariage, j'avais 18 ans et je devais être mariée à un cousin. Donc un soir, je suis partie, le Royal de Luxe est allé faire un casting au Mali et j'ai pris un vol un soir comme ça, j'ai disparu pendant 6 ans. Et pendant ce temps-là, j'avais besoin d'évacuer parce que les filles, les jeunes filles ne s'aventurent pas comme ça sans l'accord des parents et tout ça. Je suis pas partie dans le chemin normal comme tout le monde. Et donc j'étais un peu en souffrance de cela. Du coup, je chantais pour exprimer cette douleur cette coupure brutale avec ma famille et je devais me reconstruire. J'avais coupé mes cheveux, en fait. C'est l'adolescence. Tout est perdu, mais en même temps, tu dois te retrouver. Donc, la voix, elle m'a aidée à trouver mon chemin. Parce que je chantais toute seule après, pendant les pauses de la création avec le Royal de Luxe. Je sortais toute seule, j'allais chanter à la mer, j'allais chanter toute seule au bord de l'eau. Et le réalisateur m'a dit, mais c'est fou, le vent nous renvoie ta voix grave. Il me dit, mais quand tu commences à chanter, on s'arrête tous. Et je savais pas ça. Et cela a duré au moins toute une année, il me le disait pas. Mais à chaque fois que j'allais toute seule, je chantais pour moi, je chantais pas pour le public. À la base, moi, je me voyais comme comédienne, mais ma voix, elle m'appartenait. C'était pour moi, pour me guérir, pour me soigner, pour me faire du bien. C'est comme ma cigarette, c'est ma détente.
Bah, c'est plus efficace que la cigarette encore, je dois le dire. Et vous savez quoi, on va tout arrêter, on va faire exactement ce que vous disiez, votre prof de théâtre. Bah oui, et on va reparler après de voix, de son, de rythme, d'éternité. Juste après donc le premier extrait de ce nouvel album, Terini. Vous êtes sur France Inter avec Fatoumata Diawara, vous écoutez Boomerang.
Tala Yorojana, Ale Maso Segima.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'elle a ce charisme absolument incroyable qui vous donne instantanément envie d'être son fan, son disciple ou son choriste. On s'imagine déjà dans son ombre, en train de claquer des doigts, de taper des mains, de se déhancher, guettant l'instant où elle daignera poser sur nous ses yeux en amande, traquant son sourire impérial, prêt à se contenter d'une petite tape sur l'épaule ou même d'un croc en jambe, avec sa chemise bleue et ses coquillages partout, autour de son cou, autour de son poignet, même sur ses cheveux. Fatoumata Diawara, invitée de Boomerang ce matin pour son deuxième album, Fenfo. Est-ce qu'il faut tout de même rappeler, Fatoumata, c'est que votre carrière, c'est effectivement au cinéma qu'elle a commencé. Comment vous êtes arrivée sur un plateau de cinéma?
Ah, j'avais 13 ans quand je suis allée sur mon premier plateau. Ma tante, elle est comédienne en fait. Et comme j'étais en Côte d'Ivoire et que j'étais un peu perturbée par rapport à ma vie aussi, il y a toutes les portes à ouvrir. Et après, quand je suis allée au Mali en adoption chez ma tante, et ben elle était comédienne et moi j'avais pas prévu d'être comédienne à l'époque, j'étais danseuse, j'aimais beaucoup danser et du coup elle m'a amenée sur un plateau, j'avais 13 ans et le réalisateur avait beaucoup apprécié. À la fin du plateau, on avait fait genre 2 mois au fin fond du pays d'Ogon et le dernier jour pour le dernier clap, il voulait absolument que je sois dans son film. Il voulait juste me remercier pour mon sourire. C'était pour la première fois, mais il disait que voilà, que mon sourire, le réalisateur m'a dit que mon sourire avait illuminé toute la dureté du tournage et tout ça, qu'il voulait juste me remercier. Et voilà que c'est comme ça que je suis devenue comédienne. Donc il m'a donné cette phrase à dire pour le dernier clap et je l'ai fait avec tout mon cœur, avec beaucoup de joie et de l'enfance, tout l'innocence. Et avec d'autres réalisateurs qui préparaient leur film à ce moment-là. Et après, j'ai eu des coups de fil, quoi, à travers une phrase. Ça y est, j'ai fait la genèse de Cheikh Omar Sissoko à l'âge de 18 ans, qui m'a amené à Cannes. J'ai fait les tapis rouges à 18 ans. Et après, le film S'il y a le rêve du python, qui est très populaire aussi, voilà, deux, voilà, ainsi de suite, ça y est. Donc le cinéma m'a vraiment choisi aussi, on va dire.
Vous étiez une enfant rebelle, on l'a compris.
Un peu, oui.
Et vous vous rebelliez contre quoi?
Je pense que cela est dû à ma mère en fait, parce que je me rends compte que j'ai pas été enfant dans ma vie, que j'ai été toujours rebelle. Et ça, je pense que je suis née un peu avec ça, parce que ma mère apparemment elle était danseuse et quand elle commençait à avoir beaucoup de buzz à 18 ans et tout ça, son père a eu peur, lui a donné à ma mère. Donc en gros un mariage, voilà, arrangé. Et je pense qu'elle est partie à ce mariage là avec cette envie elle allait être, voilà. Il y a un truc qui s'est stoppé quoi, en plein élan. Donc moi, je suis l'enfant, je suis le troisième enfant de cette énergie-là de ma mère. Et elle m'a dit que son dernier battle, c'était avec... Elle était enceinte de moi, qu'elle avait dansé tout le long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et qu'après, quand elle a accouché de moi, elle a arrêté de danser. Donc mes deux premiers, mon grand frère et ma grande sœur sont décédés malheureusement. Et moi, je suis l'enfant qui a été voilà, le fruit de, qui a pris toute cette énergie-là de ma mère. Je pense que je suis en train de continuer quelque chose que ma mère n'a pas pu terminer.
Cette indépendance.
Oui, parce que je suis toujours, j'ai toujours été un problème pour elle et aussi pour mon père. Je suis arrivée avec toujours une énergie de. En tout cas, ce qui est bien dans tout ça, je pense que ça m'aide aujourd'hui d'être autonome et d'être battante, de vouloir être. De travailler. Je me dis, on ne m'a pas appris à vouloir travailler. J'ai toujours eu cet instinct de vouloir faire les choses par moi-même. Même maintenant, faire des solos sur scène, j'aime toujours faire des choses sans qu'on me dise de le faire.
Mais c'est vrai que votre histoire, elle est quand même ponctuée de séparations, de départs aussi.
Oui, beaucoup de départs.
De la Côte d'Ivoire au Mali, puis du Mali à la France. Vous célébrez l'Afrique. Et en même temps, votre relation avec ce continent, elle est loin d'être simple, non?
C'est vrai.
Il y a eu beaucoup de souffrances.
Il y a beaucoup de souffrances, de douleurs et en même temps d'espoir. Parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces souffrances et de douleurs, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est mon passé a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui me permet d'être l'image d'une jeunesse aujourd'hui et d'être la voix de la jeunesse aujourd'hui. Parce que quand je vois des commentaires sur Facebook, sur les réseaux sociaux en me concernant, je vois que c'est tout le continent africain qui me soutient. Et même au Maroc, là je dois aller au Maroc, je vois des sœurs qui m'écrivent, qui me disent « on est avec toi, on sera tous là ». Et en fait, avec moi, il n'y a plus de frontières. J'ai l'impression que l'Afrique s'unit. L'Afrique, je ne sais pas, il y a un truc, il y a une responsabilité que j'essaie de porter et qui est assez entendue par la jeunesse. Et j'aime beaucoup cette responsabilité-là. Si je n'avais pas eu ce passé, j'aurais eu peur de faire ça.
Vous voudriez que c'est ça qu'ils entendent aussi?
Oui,
chez vous.
Comment ?
C'est, vous pensez que c'est ça qu'ils entendent chez vous aussi,
oui,
votre passé ?
Oui, je pense qu'ils entendent. Quand ils regardent mes yeux, ils savent que on peut le faire. Voilà, il y a un truc, il y a un message de d'espoir dans le sens où je veux pas, malgré mon passé, je veux pas me plaindre. Ils voient que quand je partage mon histoire, c'est pas pour en pleurer. C'est pour dire, ok, t'as vécu ça, t'as été adopté ou t'as vécu, t'as été battu, mais cela ne doit pas te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Dis-toi que ton chemin est écrit et c'est à toi de prendre le stylo et de la définir et de la décrire au monde. Ne laisse pas les autres t'abattre. Ton passé ne doit pas détruire ce que ton futur doit être.
Vous nous faites un cadeau ce matin, Fatoumata Diawara, avec un titre que vous venez d'écrire,
ouais,
en Bambara.
Oui.
Qui s'appelle Kunfaga.
Kunfaga, voilà. Ok. Konitara malila Himana se buguni marala Nguni sera buguni ni wasolonje Ngadugu beyinsra la ubawelehe Madina kurula mini Ngo duda sirive yinsrala Kodamani komrama Tineni kurajan ala Konenale folila ufe Ae soronto Ngo tuneni famade nyengone denye Ngo taradi lana ye 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 Kodama Faga, 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 kun faga. Faga, 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 kodama, 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 eh. Kodama, dama, dama, yeah.
Wow, merci. Fatoumata Diawara.
Merci à vous.
Pour ce titre, Kunfaga.
Merci.
Pour nous, exclusivement.
Merci.
Le matin, moi aussi, j'essaye de faire ça, ça marche pas. Merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Fenfo, votre deuxième album vient de sortir. C'est un album France Inter, naturellement. On en est très fiers. Vous serez en concert tout l'été au Francopholis de La Rochelle le 11 juillet ou encore à Jazz in Marciac le 8 août. Mais aussi à la rentrée de Nancy à Alençon en passant par Toulon, Périgueux pour finir au Trianon de Paris le 11 décembre. On y sera. Évidemment, mais avant on va écouter les médias. Est-ce que vous entendez Sonia De Villers?
Non, mais je ne vous entends pas, je vous écoute. C'était magnifique.
Ah bah c'était magnifique.
Ouais, heureusement qu'Augustin chante pas tous les matins.
Ah, j'attendais une petite pique là, voilà.
C'était très très beau.
Merci.
Merci les amis.
Salut Sonia. Salut. On vous écoute.